honnêtement, prenez cet épisode pour ce qu'il est, un partage, puis on veut vraiment juste créer, comme on disait, le dialogue, l'espace et la bienveillance, d'en parler, tout simplement.
Mm-hmm. Voilà, on est trois citoyennes qui partagent leurs réactions.
Les Neurodivertissantes, le podcast qui célèbre l'unicité neurodivergente et qui explose les préjugés pour un monde plus inclusif.
Épisode 32, quand l'actualité crée de l'anxiété.
Avec vos animatrices Solène Métayer, Fran Deloum et Mélissa Saint-Louis. Accrochez-vous, il y a de l'idée à la minute ici.
Allô, cher auditoire, c'est un épisode des Neurodivertissantes, un épisode qui va se vouloir peut-être pas facile, mais avec beaucoup de bienveillance et de douceur. Je vais d'ailleurs statuer d'emblée avant d'accueillir mes acolytes que sont Solène et Mélissa. Un petit avertissement de sensibilité, a.k.a. un trigger warning, comme on connaît bien. On va vous parler aujourd'hui d'anxiété, d'actualité, parce qu'on se rend bien compte qu'il se passe énormément de choses dans le monde et qu'il faut en parler, qu'il faut se donner des moyens et du soutien. Donc, on a choisi d'aborder ce sujet quand même très complexe avec vous aujourd'hui. Allô, Solène. Allô, Mélissa. Comment
tu vas? Allô, allô.
Allô.
Ça va, malgré notre sujet qui peut sembler chargé aujourd'hui, mais ça va, on est contente de le faire parce que c'est important.
Ouais, mais c'est déjà un peu moins pire, je trouve, c'était plus quand ça a été annoncé la semaine passée, la guerre, que j'ai pas été capable de fonctionner de la journée, mais aujourd'hui, ça va, il y a du recul.
Ouais. Mélissa, toi, comment vas-tu avec tout ça?
Écoute, je te dirais, ça va, je pense que l'épisode tombe quand même bien dans le sens où je pense que je me sentais un peu coupable d'être pas si pire.
Oui, puis continuer la vie comme si de rien n'était aussi, là.
Ouais, c'est ça, tu sais, je pense que c'est important d'en parler, puis je pense que je suis une graduée de l'anxiété traitée dans un certain sens. C'est sûr qu'on s'en sauve pas à 100%, mais je me ramène peut-être 4, 5, 6 ans en arrière, j'aurais pas été dans l'état où je suis aujourd'hui, avec tout ce qui se passe. T'sais, je me rappelle juste la situation de ce qui s'était passé en 2018, là, avec la Corée du Nord, tout ça, tu sais, j'étais... en tout cas, ça pourrait faire partie de nos tranches de vie dans l'émission, mais j'étais pas dans l'état où je suis maintenant, puis je juge que ce qui se passe aujourd'hui est encore plus grave. Fait que c'est pas pour dire que je suis insensible à tout ça. La preuve, c'est que je me sens coupable dans tout ça, mais en même temps, je me dis qu'il y a moyen d'essayer de continuer à vivre le moment présent tout en étant empathique et conscient de ce qui se passe, là.
Oui, puis ce sentiment-là que tu nommes, là, cette forme de culpabilité, ça peut alimenter une anxiété, ça peut alimenter justement des sentiments, de la rumination, peu importe, qui vont être préoccupantes. Puis juste pour la mise en contexte, parce qu'on, bon, nous, on enregistre en ce 2 mars 2022, mais dans le fond, cet épisode se veut un peu une réponse à ce qui se passe là, bon, en Ukraine. Donc depuis le 24 février passé, toute la planète est au courant là, de ces événements absolument dramatiques, de cette guerre qui est déclarée. Donc, ça a suscité de fortes réactions dans notre entourage, en nos personnes. Solène le nommait tantôt qu'elle avait eu la difficulté à fonctionner cette journée-là. Et on s'est bien rendu compte qu'il fallait qu'on en parle parce que, déjà, chez la population en général, c'est un sujet excessivement anxiogène. Mm-hmm. Et en plus, ça ajoute à ça les personnes qui sont aux prises avec une anxiété plus envahissante, avec des enjeux au niveau de la santé mentale. Puis la neurodivergence aussi est... surexposé souvent à ces hypersensibilités-là et cette anxiété-là. Donc, c'est surreprésenté dans le bassin neurodivergent. Donc, on pense que il faut en parler. Il faut se donner les mots, les moyens, puis l'espace.
Oui, exactement.
Puis aussi, tu sais, quand on se remet aussi dans les sphères de la vie, puis là, tu sais, c'est sûr qu'on travaille, on parle beaucoup autour du monde du travail comme personne en ressources humaines, mais je pense que ça donne aussi une vision de... pourquoi est-ce que peut-être certaines personnes peuvent se sentir plus incapacitées que d'autres dans des temps comme on vit présentement? Puis peut-être de relativiser puis d'être plus empathique par rapport à quelque chose qui pourrait parfois paraître surdimensionné pour certaines personnes. Puis pour les personnes qui vivent avec cette anxiété-là, mais tu sais, de comprendre que d'autres personnes qui vivent avec ça, que c'est normal que ce soit envahissant. Puis tu sais, on va essayer de regarder au niveau des outils qu'on peut apporter.
Oui.
De par notre vécu, tu sais.
Oui, mais ça a un impact aussi sur le travail dans la mesure où on peut avoir des collègues qui sont ukrainiens ou russes, hein, parce qu'il y a aussi beaucoup de Russes qui sont contre la guerre. Donc des collègues, des gens qui ont de la famille là-bas. Moi, j'ai une amie qui a de la famille en Ukraine, donc c'est
ouais.
ça peut avoir un impact quand même sur le travail.
Oui, exactement. Puis on va quand même remettre une petite perspective qui est que nous ne sommes pas des thérapeutes, nous sommes vos trois neurodivertissantes favorites, animatrices de podcast, professionnelles en RH, gestion, développement organisationnel, etc. Mais on veut en parler de notre point de vue qui est absolument pas clinique, on s'entend, et vous rappeler aussi que si vous vivez de la détresse avec tout ça, ben on vous encourage à aller chercher du soutien professionnel et de l'aide.
Oui.
Parce qu'on ne peut pas le faire, on veut juste... créer le dialogue, mais n'hésitez pas à chercher de l'aide, c'est excessivement important.
Ah oui, c'est ça, parce que nous, je pense qu'on a le trois points de vue de personnes qui ont vécu de l'anxiété. Personnellement, j'en ai vécu beaucoup, mais, mais j'ai été accompagnée, tu sais, j'aurais pas pu m'en sortir sans cette aide professionnelle dont tu parles, Fran. Donc, c'est super important, effectivement, surtout dans le contexte actuel.
Mm-hmm. Fait qu'on va vous laisser des liens là aussi au niveau de l'épisode avec des sources d'aide. Puis on sait que les psychologues sont ultra sollicités ces temps-ci, mais il y a d'autres
ressources.
Il y a d'autres ressources. Il y a des plateformes de soutien psychologique en ligne aussi avec des psychothérapeutes, des psychologues. Donc, il n'y a aucune publicité qui est faite. On n'a aucune commandite. Là, on a juste relevé certaines plateformes qui semblaient ne pas avoir de liste d'attente là, si jamais vous étiez vraiment là, mal pris en détresse.
Voilà. Exactement.
Wow. Comme nous sommes les personnes que nous sommes, nous vous proposons peut-être un petit tour d'horizon un peu plus théorique, définition en termes d'entrée pour cet épisode, parce que ben, c'est important de comprendre qu'est-ce qui est quoi, hein, parce qu'entre le stress, l'anxiété, l'angoisse, les hypersensibilités, il y a différentes définitions, puis je pense que c'est important de départager qu'est-ce qui est quoi, parce que ben, il y a une gradation aussi entre ces termes-là. Je ne sais pas si une de vous avait envie de se lancer sur le sujet, sinon je peux me risquer.
Ben vas-y, Mélissa, peut-être?
Ben je peux commencer si vous voulez, puis vas-y, et complémente allègrement. Donc on va commencer par le petit déclencheur de tout ça qui est le stress. Donc le stress qui est la perception d'un danger, le stress qui est normal et inhérent à la vie de tous les jours, qui fait partie de tout ce qu'on vit, c'est le stress... qui peut être perçu comme au niveau de la stabilité de son emploi, au niveau d'un danger qui peut arriver sur la route, etc. Fait qu'il y a plein de choses qui peuvent générer du stress. Après ça, on a l'anxiété qui est un peu cette... Oui, vas-y.
J'allais juste compléter le stress. C'est une réponse qui est très physiologique. Puis ça peut être un perturbateur dans nos relations. Bref, un événement stressant. Mais ça peut être aussi simple que j'entends un gros bruit. J'ai une réaction de stress et de peur immédiatement. Genre, mon corps réagit à... Parce qu'il y a comme une perturbation là, à ma sécurité perçue. Genre.
Oui, merci.
Ça garde le corps en alerte, finalement. Là.
C'est ça. Puis justement, l'alerte, en fait, elle est créée par le cortisol puis l'adrénaline qui sont générés au moment du stress. Donc, c'est quelque chose qui est quand même très ciblé dans le temps autour de ce qui se passe puis qui crée un stress.
Mm-hmm.
Oui, puis le stress, si on parle de Sonia Lupien, qui est une célèbre chercheuse québécoise, en fait, c'est aussi le ciné. Donc, avoir un contrôle faible, de l'imprévisibilité, de la nouveauté, un égo menacé. Donc, c'est les quatre facteurs qui font en sorte qu'il peut y avoir du stress dans notre vie.
Hey, moi, là, je vais noter les ressources au fur et à mesure cette fois pour ne pas les chercher après.
Ouais, donc c'est ça, il y a le ciné de Sonia Lupien. Puis elle parle du mammouth qui est, en fait, c'est normal d'avoir du stress, c'est même sain dans la mesure où, tu sais, quand il y avait un mammouth, ben, il fallait qu'il y ait une réaction de stress pour s'en aller de là. Donc, c'est une réaction purement physiologique, puis on en parle plus loin, mais ça peut créer une crise de panique. Mais une crise de panique, en fait, c'est vraiment qu'on est en contexte pour fuir physiquement. Donc, le cœur bat plus vite pour donner de l'oxygène, on a, tu sais, le sang va dans les extrémités, donc, il y a vraiment une réaction physiologique à ce stress-là, puis c'est juste que dans le contexte, généralement, c'est un peu absurde parce qu'il n'y a pas de mammouth dans la pièce, puis on peut pas fuir ce qu'il y a dans notre tête, fait que ça va mal. Mais, mais c'est ça, c'est normal, en fait, d'avoir ces réactions-là.
Le stress. Les crises de panique sont peut-être un peu plus questionnables en termes de... aimerait ça pouvoir avoir des moyens pour les éviter. Ce n'est pas nécessairement dans la normalité.
Oui, non, effectivement, c'est pas agréable. Voilà. Pour ça. Mais en fait, c'est logique dans le sens qu'on on réagit à quelque chose qui est très fort dans notre tête, mais c'est une réaction qui est excessive parce que le
stimuli pour le danger,
est excessif, en fait.
Exact. Mélissa, de retour à toi pour l'anxiété.
Oui, bon, mais non, mais merci, c'est bon. Je pense que j'étais partie sur ma lignée, puis c'était des compléments extrêmement importants. Donc, l'anxiété, en fait, c'est quand on se met à ruminer, d'avoir du stress de façon continue, puis qu'on n'arrive pas à passer à autre chose. Donc, l'anxiété va vivre en nous, va faire bâtir ce stress-là autour de différents mécanismes, donc avec, par exemple, autour des distorsions cognitives. Donc, on va avoir des distorsions cognitives. On en a déjà parlé dans les autres épisodes. On a mis des listes, là, mais quand on a une distorsion de la réalité qui nous génère encore plus de stress.
Oui.
Puis moi, quand je me plongeais un petit peu dans la littérature, ce que je comprenais qui était assez accepté autour de l'anxiété, c'était cette notion d'anticipation d'une menace à venir, donc dans le futur. Puis que l'anxiété, c'est quelque chose qui est normal et que tout le monde va vivre un moment ou un autre, ou presque, mais qu'il y a un niveau d'anxiété qui peut devenir problématique lorsque l'intensité est vraiment trop exagéré par rapport à la menace perçue, quand ça nuit au fonctionnement, quand la détresse est importante. Donc moi, c'est ce que je comprenais beaucoup de l'anxiété, c'est que c'est normal, ça va être lié à nos processus de comment on appréhende certaines situations futures, mais qu'il y a comme un niveau qui peut devenir pathologique, dans le fond. Est-ce que c'est une définition qui fait sens? Est-ce que vous connaissez de l'anxiété?
Oui, totalement.
Excellent. Puis c'est là où on a peut-être plus la notion de trouble anxieux, par exemple, qui va pouvoir être diagnostiqué. Voilà.
Oui, puis c'est là aussi qu'il y aura plus les crises de panique. Donc, il y a crise de panique. Il y a crise d'anxiété qui est un peu plus petit, qui est un peu plus facile à vivre. C'est jamais facile à vivre, en fait. Mais oui, c'est ça. Il y a des degrés aussi dans ces réactions-là.
Puis en termes de symptômes, c'est ça, on va avoir des choses qui peuvent être physiologiques, mais il va y avoir beaucoup aussi au niveau de la psychosomatisation, donc notre corps va venir manifester cette détresse psychologique-là qu'on ressent. Puis ça peut aussi atteindre un petit peu les capacités cognitives, donc des difficultés à se concentrer. Je sais qu'au niveau du sommeil, ça peut être envahissant. Bref, il y a énormément de manifestations qui peuvent être liées à l'anxiété, là, de cette rumination que tu nommais, Mélissa.
C'est ça. Puis en fait, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, de ce que j'ai lu, tu sais, qui peuvent ne pas aller consulter ou aller chercher de l'aide parce que ça devient tellement...
La norme.
Oui, c'est ça, ça devient la norme, puis c'est quand même assez insidieux, donc ça peut arriver que quelqu'un ne sait pas que c'est ça, puis là, ces manifestations un peu plus psychosomatiques-là peuvent faire que, justement, on consulte parce qu'on a tout le temps mal, on a tout le temps, tu sais, certains symptômes liés aussi avec des crises de panique ou des crises d'anxiété, où ce qu'on va dire, ben tu sais, mon cœur, est-ce qu'il est correct? Tout ça fait que, des fois, on peut avoir plusieurs craintes en lien avec des réactions physiques avant de se dire, ben c'est peut-être l'anxiété qui génère ça, là.
Effectivement. Puis, un troisième terme, mais que nous, on utilise moins, je trouve, au quotidien, qu'on va beaucoup plus parler de panique, mais dans la littérature, ce qui ressort beaucoup, c'est l'angoisse. Anguish, en anglais. Est-ce que c'est... moi, je trouve qu'il est peu utilisé dans le quotidien. Là. Je sais pas.
Mais en fait, ça va. Il est utilisé, mais il va avoir beaucoup moins de force, en fait.
Pourtant, c'est le pire stade, entre guillemets.
Oui, effectivement, mais dans ce que je perçois, en tout cas, il y a moins de... Justement, c'est pas cette force-là. Ben, l'angoisse, en fait, c'est que ça va être plus long dans le temps, ça va s'installer, ça va prendre place, puis ça va un peu t'envahir, tu sais, c'est vraiment plus...
Mais c'est ça, l'angoisse, c'est comme quand je lisais là, comment elle est documentée, c'est... elle va vraiment être accompagnée de ces réactions physiques qu'on associe un petit peu aux crises de panique, là, donc les pressions au niveau... les sentiments d'oppression thoracique, la difficulté à respirer, c'est vraiment associé à un sentiment de mal-être, de perte de contrôle. C'est absolument envahissant comme sentiment, là. Et de ce que je comprends, c'est comme un c'est pas juste l'anxiété qui a pris des stéroïdes, là. C'est vraiment une autre forme. Et même que c'était documenté comme quoi ça empruntait des... J'ai neurological pathways en anglais, mais des chemins neurocognitifs différents que le traitement de l'information quand il s'agissait de l'anxiété. Moi, c'est comment j'avais lu là, que c'était vraiment une autre forme complètement.
Oui, non, effectivement, ça va être plus... On va passer plus rapidement aux conclusions. Les pensées vont être plus envahissantes aussi. Puis c'est... Il y a vraiment... Je sais pas, un sentiment de pression dont tu parlais qui est très, très, très présent. Mais à la limite, ça devient tellement permanent qu'on s'en rend presque plus compte. Puis bon, il y a évidemment les troubles du sommeil et compagnie.
Exact. Puis j'avais été lire un petit peu une étude là, qui parlait qui essaie d'explorer là, le rôle de l'hypersensibilité et du traitement cognitif et émotionnel par rapport à l'angoisse chez une population adolescente autiste et une population adolescente neurotypique. J'avais trouvé intéressant comment les chercheurs, ils allaient travailler sur isoler certaines variables au niveau de l'angoisse parce que tu peux plus adresser comme des leviers ces variables-là que l'angoisse at large. Et donc, on parlait beaucoup de la notion d'intolérance à l'incertitude, de l'hypersensibilité, donc sensorielle, vraiment, qui va créer une forme d'anxiété aussi parce que tu es en surcharge et donc ça devient stressant. Et il y avait aussi la notion de la régulation émotionnelle, qui est la réponse émotionnelle qu'on va donner face à un stress, et que chez les populations autistes, souvent, ou les populations hypersensibles, il y avait plus de difficultés à adapter une réponse fonctionnelle, justement, au stresseur par rapport aux émotions. Et donc, c'était très, très étroitement relié à tous ces enjeux d'anxiété et d'angoisse, finalement.
Oui, c'est ça, on va être en surréaction constamment, puis on va... Ça va prendre, ben un peu comme les émotions quand on est en hypersensible, ça va prendre toute la place, puis ça va même plus être rationnel. En fait, le lien, c'est on va sortir un bazooka pour écraser une fourmi, tu sais, ça va, c'est absolument disproportionné. Puis...
J'aime beaucoup l'image.
Je viens de l'inventer, c'est pas merveilleux.
Aïe, c'est incroyable.
Bon, t'as un copyright dessus.
Mais tu sais, c'est carrément ça, en fait. Puis c'est un peu le problème, en fait, de comment est-ce qu'on va réagir à ça. Ça va... Mais personnellement, j'ai appris... J'ai encore ces réactions-là comme sur-intense. Mais ça va être beaucoup plus court. J'ai réussi à les désamorcer beaucoup plus rapidement qu'avant. Et on va vous parler de stratégie. Mais c'est toujours là, un peu, on ne se change pas. On reste hyper sensible. C'est juste notre façon de réagir à ces émotions-là puis à cette réaction-là qu'on va... qui va changer, finalement.
Exactement. Puis, est-ce que vous... Moi, j'ai mon petit commentaire sur le sujet, mais est-ce que vous croyez que le fait que cette guerre-là prenne place après 2 ans de pandémie est un facteur qui est aggravant ou c'est contextuel?
Ben non, c'est sûr, ça joue. Là, on vient de vivre 2 ans de stress quasiment quotidien. Non, quotidien, on va le dire, on va l'assumer. Oui. Puis ça finit pas. On n'a pas. Tu sais, on parlait du ciné tantôt, ben on n'a pas de contrôle, on n'a pas. C'est imprévisible, c'est ci, c'est ça. Et il y a plein de facteurs qui font qu'on est constamment sur le stress, sur le cortisol. Puis du coup, on est déjà fragilisé. Puis là, il y a ça qui se rajoute. Écoute, c'est la fin du monde.
Oh
oui. Ben, j'exagère peut-être, attention. La façon dont je dis ça, c'est pas forcément la fin du monde, je ne dis pas ça textuellement.
Merci, Solène, de la précision. C'est
une expression. On le ressent comme étant la fin du monde, mais c'est pas ça. On va se le souhaiter, en tout cas.
Ouais, puis ça ramène un peu à la. Il y a quelques épisodes, Franck, tu avais ramené le.
Le tsunami et la distorsion cognitive.
C'est ça, l'article du tsunami, c'est ça, tu sais, c'est vraiment. Mais là, c'est un tsunami en plus. On s'entend, c'est pas quelque chose de banal et de petit. Il y a une réelle détresse qui est vécue autour de ça en Europe et que, tu sais, ça risque d'avoir des répercussions. Puis là, je suis zéro rassurante. Mais c'est normal, dans le fond, de réagir aussi fortement. C'est juste qu'en plus, avec tout ce qu'on vient de vivre, ben. On a peut-être un petit épuisement.
Oui, puis n'oublions pas que certains parmi nous sont doués aussi, donc on fait des liens très facilement et c'est facile de voir très loin dans le temps et de voir les conséquences qu'il peut y avoir sur nous. Ben, c'est sûr qu'on a une certaine partie de notre auditoire qui est en Europe, mais sur nous au Québec, il va y avoir des conséquences selon, très probablement en tout cas, et donc ne serait-ce qu'économique. Donc c'est facile de voir les conséquences dans notre tête de doué, là.
C'est un événement inquiétant en soi, puis comme vous nommez bien, la pandémie, je pense, nous a comme usé psychologiquement, là, on a comme moins de ressources, l'anxiété survient plus vite à des plus petits indicateurs, donc là, on a un indicateur qui est majeur, là, je disais, il y a quand même un événement dramatique qui se produit dans notre monde et qui va avoir d'une manière ou d'une autre des conséquences directes et indirectes, et c'est sûr qu'on peut difficilement... ne pas se projeter puis se questionner sur quelles vont être ces conséquences-là. Donc, la menace future dont on parlait dans l'anxiété, elle est bel et bien là dans la lecture qu'on fait de la situation.
Oui, effectivement.
Puis tu sais, en soi, puis là, je vais citer une thérapeute, la douance et le TDAH, dans un contexte wise avec l'anxiété, c'est un cocktail assez explosif. Mm-hmm. Tu as un cerveau qui est capable de percevoir beaucoup d'informations, puis tu as un cerveau aussi qui va te garrocher beaucoup d'informations, donc les pensées intrusives sont beaucoup plus fréquentes, surtout avec le TDAH. Donc, c'est quand même un terreau assez fertile pour verser dans l'anxiété.
Oui, Ouais, puis d'avoir, l'anxiété, c'est une espèce de, c'est une spirale, en fait, descendante, mm-hmm. puis c'est très dur d'en sortir, fait que là, plus ça va, plus ça t'enfonce, mm-hmm. et plus tu sautes d'une idée à l'autre, puis ça va de plus en plus loin, puis ça, plus ça va, plus ça s'éloigne de la réalité, donc mm-hmm. c'est effectivement, avec le TDAH, c'est facile, de, j'imagine, de plonger là-dedans. C'est déjà facile pour moi qui suis autiste et douée, fait que j'ose même pas imaginer pour une personne TDAH.
Ben oui. Puis, tu sais, j'ai tendance à... J'aurais envie qu'on parle un petit peu des réactions qu'on a eues parce que j'aimerais qu'on puisse les normaliser un petit peu parce que je réalise que moi, dans ma maison, on a vécu les choses très différemment, dans mon entourage aussi. Est-ce que vous êtes confortable de parler un petit peu de votre expérience par rapport à tout ça?
Comme toujours.
Vas-y, Solène.
On est toujours ouverte avec les neurodivertissants. Ben, moi, comme je te disais, ça a été super dur cette journée-là parce que... Ben, parce que je voyais les conséquences, en fait, puis pour moi, c'est super proche, l'Ukraine. C'est pas sur l'autre continent, là. C'est à côté, c'est nos voisins, c'est des amis dans certains cas. Donc, je l'ai super mal vécu, j'ai vraiment pas travaillé cette journée-là parce que, en fait, j'ai essayé, mais j'avais la tête ailleurs. J'avais pas forcément des idées obsédantes, là, mais j'étais down. J'allais vraiment pas bien. Puis, ma réaction a été de faire « ben, c'est correct ». C'est-tu quoi? Il vient d'avoir une super grosse, une vraiment mauvaise nouvelle dans le monde. Puis, c'est legit que je ressente ça. Donc, j'ai juste accepté et laissé passer. On va en parler tantôt, mais c'est une des stratégies pour mieux accueillir les pensées anxiogènes. Donc, tu accueilles, tu reconnais, tu fais preuve de compassion envers cette pensée-là. Puis ensuite, tu la laisses partir. Donc, c'est pas de la confronter parce qu'elle va juste vouloir s'implanter. Donc, c'est vraiment de l'accueillir et de la laisser passer. Puis après, c'est correct, là. Je suis plus anxieuse tant que ça. Je sais que ça peut être mal viré, mais ça va. Ça m'empêche plus de fonctionner, finalement.
Mélissa?
Ouais, c'est ça, tu sais, comme je disais un peu au début de l'épisode, je me sentais un peu coupable dans le sens où... mais en même temps, je pense que j'ai fait un peu l'autruche.
Mais c'est une stratégie de préservation aussi.
C'est une stratégie, ouais.
Ouais. Tu sais, je me suis dit, bon, mais... Tu sais, dans la façon dont moi, j'ai appris à appliquer les stratégies, ben j'ai procédé d'une certaine façon qui inclut un peu l'autruche dans ce sens où... puis là, on en parlera des mécanismes, là. Solène en a présenté un peu le sien. Mais quand on peut rien y faire dans le moment présent, ben c'est de voir, bon, ben dans le moment présent, où est-ce que je peux aller me raccrocher. Fait que c'est pas nécessairement de commencer à faire de... Tu sais, oui, j'ai été comme faire un peu un peu plus de recherche pour essayer au moins de me faire une tête puis de pouvoir en discuter intelligemment avec des gens, mais sans nécessairement tomber dans la recherche compulsive d'informations puis dans le rabbit hole de tout ça. Solène?
Ben, moi, justement, ma réaction était le contraire. Je me suis pas renseignée. J'ai fait l'autruche. J'ai lu les titres, je savais ce qui se passait, je savais les grandes lignes. Mais j'ai pas été capable de lire tout de suite qu'est-ce qui se passait là-bas. C'est le lendemain, une fois que les observateurs ont retombé, que j'ai pu me renseigner puis aller lire plus en détail. Fait que ça a été un peu l'inverse de toi, finalement.
C'est ça. Puis tu sais, au niveau de la lecture de la situation, tu sais, mon mari me parlait de « Ah, ben, il faudrait peut-être prévoir des vacances. » Puis là, j'ai dit « Ben, tu sais, prévoir des vacances cet été, pas sûr que j'ai envie d'aller aux États-Unis. » Puis là, il dit « Ben, il n'y a pas de danger. » Je dis « Ben... » Fait que tu sais, il y a quand même des points d'anxiété qui surviennent dans tout. Je veux dire, je me sens bien, je suis pas en train d'avoir une crise de panique, mais il y a quand même certains mécanismes. Puis là, tu sais, j'en parle, fait que je m'en rends compte, je pense, peut-être plus, parce que je vais me... On est en train de faire une thérapie live en avant tout le monde.
Écoute, dévoilement.
Comment se sentir tout nu dans la vie. mais je me ramène vraiment aussi à la situation politique des années précédentes. T'sais, je me souviens quand l'espèce de conflit États-Unis-Corée du Nord avait levé, je me souviens, t'sais, à ce moment-là, j'étais dans mon auto, puis j'avais sérieusement peur de vomir dans ma voiture là, quand ça avait été annoncé. Fait que je me dis, en comparaison à comment je me sens aujourd'hui, je suis beaucoup mieux. Mon mari, je pense qu'il prend différemment, puis je veux pas rentrer dans ces détails de sa vie à lui, mais je le sens plus zen dans tout ça, dans le sens où lui, comment il voit, c'est que c'est normal qu'il y ait une guerre parce que l'économie va mal.
Ah ouais.
Et économiquement parlant, ben, quand ça va mal, ben ils font des guerres. Fait que...
Contextuellement, il y avait beaucoup de raisons pour lesquelles cette guerre-là se déclenche maintenant.
Et c'est vrai que c'est très bon pour l'économie, là, éventuellement, la guerre, ouais.
Puis toi, Fran?
Effectivement!
La meilleure réponse est un soupir. Honnêtement, moi, ça a été vécu en plusieurs temps parce que le neurodivertissant secret, lui, sa stratégie a été de surinvestir le sujet. Et comme je cohabite avec lui, il en parle non-stop. Mais il s'investit là-dedans d'une manière, on va dire, plus... Il va chercher beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations très, très objectives. Et il va chercher aussi beaucoup d'informations qu'il va utiliser l'humour, le vécu, l'anecdotique. Pour lui, d'aller lire sur les communautés, d'aller lire les témoignages des gens, ça lui donne un... J'ai l'impression, parce que je fais des interprétations, il n'est pas là pour se défendre ou pour argumenter, mais dans le sens où il rapportait beaucoup des « Hey, regarde, check ça, c'est hot ce qui se passe, tel genre a fait telle action héroïque. » Tu sais, il allait beaucoup investir... les anecdotes humaines, et ça a du beau, honnêtement, c'est juste que ça faisait qu'il en parlait beaucoup, beaucoup, et moi, de mon côté, je vivais en deux temps, soit un envahissement émotif, j'avais vraiment juste envie d'être, j'étais ultra triste, mais comme à un point, où j'avais l'impression d'avoir perdu quelqu'un de ma famille proche ici, maintenant, je me sentais envahie et un peu figée, j'avais besoin comme de me déposer un temps, et de l'autre côté, ma façon à moi, c'est vraiment de structurer mes sources d'informations. Donc, personnellement, tu sais, je le fais vraiment en regardant un journal ukrainien que je juge de confiance, puis que je lis, qui donne des nouvelles en, comme on va dire, en continu au jour le jour, puis aux heures selon les événements. Moi, celui-là me fait du bien parce qu'il filtre, il me donne comme une structure qui fait que je suis pas tout le temps en train de consommer du contenu de toutes sortes, qui est un peu plus neutre, plus informatif, puis c'est comme ma façon à moi de gérer de la distance. Donc, ça fait que je me surexpose pas, je choisis mes sources d'informations, et avec le neurodivertissant, ben des fois, j'accorde des moments où comme, OK, vas-y, shoot-moi toutes tes facts, là, ou tes petites anecdotes, puis là, j'écoute quand je suis disponible pour le faire, puis après ça, je referme cette parenthèse-là, puis lui continue à gérer à sa façon. Puis sa façon étant aussi de voir comment il peut s'investir, ce que j'aimerais bien pouvoir faire, tout autant que lui, mais en me disant ça prendra peut-être pas la même forme que lui. Tu sais, je veux dire, lui, c'est un scout, là, il est prêt à partir comme ingénieur sans frontières, mais ça me va très bien, mais ce sera peut-être pas ma stratégie à moi, là.
Mm-hmm. Puis ça me fait penser, tu sais, je pense qu'on est comme envahi par ça, par les filtres aussi, pas par les filtres, par les filtres d'actualité sur les différentes plateformes de médias sociaux, puis je pense que moi aussi, il y a quelque chose que je trouve peut-être rassurant dans... Non, pas rassurant, c'est absolument pas le bon mot. Mais une espèce de silver lining dans tout ça. Puis j'ai vraiment pas le temps français, je m'excuse.
Ouais, mais ça serait fun de le traduire parce que c'est pas si simple, silver lining, qu'est-ce que ça veut dire. Et je pourrais peut-être l'expliciter si on ne le traduit pas.
Oui.
Mais je sais pas comment l'expliciter.
Ben, en fait, c'est qu'il y a quelque chose de positif qui finit par ressortir de quelque chose de très négatif.
C'est ça, c'est comme...
Grosso modo, ouais. Là, tu sais, c'est...
Ouais.
Ouais. C'est une image, en fait, le silver lining. Faut vraiment le voir très métaphorique.
Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, tout ce qu'on voit avec le président de l'Ukraine, son histoire, toutes les... ces héros qui sont en train de prendre forme, là, je trouve que... C'est, en tout cas, côté redonner foi à l'humanité... C'est un peu moins... En tout cas, ça crée un petit bombe, si petit soit-il.
Oui, il y a énormément de choses humaines qui se passent, hein, et le tout dans notre posture de néophyte politique, là. Je veux dire, on s'entend qu'on on transmet ce qu'on reçoit via les médias nous-mêmes, où il y a beaucoup, beaucoup d'images très archétypées en ce moment aussi, là, qui sont diffusées. Là.
Mm-hmm. Non, effectivement, fait que c'est de choisir ses sources, comme tu disais, là.
C'est ma façon à faire à moi, tu sais, j'aime beaucoup les communautés virtuelles que peuvent offrir 9gag et Reddit des fois, mais dans ce cas-ci, pour moi, c'est trop, puis ça ne me permet pas de filtrer, et c'est correct, tu sais, comme je vous dis, je me contente de New Voice of Ukraine, puis je me sens bien avec ça.
Non, ouais. C'est, puis tu sais, je rajouterais juste avec tout ce qu'on a vécu avec la pandémie, toute la polarisation des points de vue, puis le cherry-picking d'informations au niveau de la science, au niveau du contexte politique, a créé certains, je crois, je ne fais que faire un éditorial sur le sujet, là, mais je crois certains réflexes et certains schémas où les gens vont aller commencer à vraiment faire du cherry-picking et se créer des opinions sur un sujet qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils pensent maîtriser en fonction du peu d'informations qu'ils cherchent ou en fonction du... Là, je vais faire une caricature, mais du gars dans son sous-sol qui lui dit qu'il a fait de la recherche, là. Ouais. Celui dans le sous-sol qui fait que vous faites des vidéos sur vos recherches de cherry-picking, s'il vous plaît, arrêtez, là.
Ben, ça me fait penser, j'avais vu un meme, là, puis je me suis un peu exactement de verbatim, mais qui m'avait quand même fait rire, parce que l'humour reste quand même une stratégie, là,
oui.
un
peu dans mon cas. Malheureusement, mais...
c'était un peu un... Bon, ma carrière d'expert en immunologie est maintenant terminée, ah, oui. je me déclare expert en conflit.
Je l'ai vu. Ouais, ça a tellement résonné fort.
J'avais trouvé ça absolument savoureux, puis tu sais, tu dis, Mélissa, c'est mon commentaire éditorial, notre épisode, il est éditorial, en soi, en ce moment, nous n'avons pas du tout l'expertise de nous prononcer. Non. On fait vraiment un partage de vécu. On vous amène, oui, des définitions théoriques parce que ben, c'est notre, un peu notre signature, puis on le fait au niveau de la définition des termes comme l'anxiété, le stress, etc. Mais honnêtement, prenez cet épisode pour ce qu'il est, un partage, puis on veut vraiment juste créer, comme on disait, le dialogue, l'espace et la bienveillance, d'en parler, tout simplement.
Mm-hmm. Voilà, on est trois citoyennes qui partagent leur réaction, mais c'est trois citoyennes lambda, là, finalement.
Exactement.
Qui se trouvent à être neurodivergentes.
C'est sûr. Donc, on parle sous ce filtre-là, mais encore là, ça s'applique à tellement tout le monde en ce moment que...
Ouais, voilà.
C'est ça. Puis on n'est pas dans un sous-sol, fait que...
Ouais, on vous l'affirme, nous ne le sommes pas.
Sauf que nous n'avons rien contre les sous-sols. On se rappelle quand même que ça peut être un très bel endroit où vivre, là, je veux dire, où ça peut être ton contexte dans la vie. Pas de jugement, s'il vous plaît.
Oui. Mon frère qui apporte des nuances.
Oh, toujours, c'est important, les nuances, ça me fait vivre du stress.
Tu sais, de quoi qu'on fasse des stéréotypes de sous-sol.
Puis si on parle de stratégie, j'ai abordé ça un peu tantôt, mais il y a des stratégies pour faire face à cette angoisse qui nous envahit et qui risque de continuer à nous envahir aussi.
Oui, puis j'ai envie qu'il y ait comme deux pans de stratégie. Le premier qui est par rapport à l'événement en soi en ce moment, puis peut-être par rapport après à l'anxiété, comment la gérer dans le fond. Ouais. Parce que tu sais, comme ce que je proposerais, là, on parlait de nos façons de se renseigner, mais cette surexposition aux informations qu'on a en ce moment, là, c'est vraiment à souligner parce qu'on est tellement hyper connectés, on a de l'information tellement rapidement que ça crée comme une omniprésence encore plus accentuée. Donc, de peut-être choisir... Oui, une surcharge, c'est ça. Donc, de choisir un peu comment on s'informe, de ne pas être constamment, tout le temps, en train de consommer du contenu là-dessus, qui, en plus, est plus ou moins informatif. C'est une stratégie, je pense, essentielle ici, là, que de se dire, je me donne le droit, sans me juger, de faire l'autruche. Puis, j'aime même pas dire de faire l'autruche, c'est juste de dire, attends une minute, je prends une trêve un petit peu par rapport à tout ça.
Oui, mais c'est se déconnecter, c'est une stratégie. Là, on parle de ce qui se passe en Ukraine puis de la pandémie, mais c'est dans toutes les sphères de notre vie, on a le droit de déconnecter, de lâcher les sources d'information et de faire une pause.
Exact. Mélissa?
Oui, puis tu sais, on en avait parlé dans l'émission sur les intérêts spécifiques puis les hyperfixations, mais des situations comme ça, surtout quand on a de l'anxiété puis que ça devient des hyperfixations, c'est important de le reconnaître puis de trouver des stratégies assez rapidement avant de tomber là-dedans. Je me remets quelques années passées, tu sais, j'ai déjà mentionné, là, ma fille, elle avait commencé la garderie plus tard parce qu'elle avait des allergies alimentaires, puis à ce moment-là, j'étais très investie dans des groupes de parents autour des allergies, puis c'était devenu omniprésent dans ma vie. Écoute, je pense que... Je suis pas sûre que l'allergologue elle ait jamais été aussi challengée par quelqu'un, par des questions pointues. Là, est-ce que c'était utile? Pas vraiment. Je veux dire, à ce moment-là, je me sentais en devoir de protéger ma fille. Mais je pense que c'est un peu la même chose en ce moment. C'est de se dire, bon, mais est-ce que j'ai besoin de toute cette information-là au niveau où je peux appliquer cette information-là dans mon quotidien?
Oui, on parlait de l'espèce de trou noir dans lequel on pouvait s'enfoncer, le trou de vision, puis qu'on se nourrissait de... Tu sais, ce trou noir-là se nourrit de l'information qu'on va lui donner. Donc, à un moment donné, de couper la source, ça peut faire du bien. Là, ça peut être une stratégie tout à fait valide et intéressante.
Oui, puis l'anticipation va nous amener à se projeter dans des scénarios catastrophes, avec cette impression que c'est inévitable ou une fatalité, mais tu sais, je pense qu'il y a une importance de relativiser aussi. Je dis pas qu'il faut pas considérer qu'il peut y avoir des scénarios plus dramatiques que les autres, mais il peut aussi avoir des scénarios moins dramatiques que les autres qui vont se produire. Il y a un « et si » à faire dans l'autre sens, dans le sens où il y a potentiellement une résolution qui peut se produire, il y a potentiellement des conséquences moins directes, moins intenses, puis après, d'un pays à l'autre, d'une réalité à l'autre, on va peut-être pas vivre les mêmes conséquences non plus, puis je comprends que ça peut être super confrontant de dire « hey, moi, je vis ça dans le confort de mon salon, dans un pays démocratique, là, je suis consciente que ça crée de la culpabilité, mais en même temps, on est ici, je veux dire, c'est pas parce qu'on est en train de nier, on n'est pas en train d'éviter. Je veux dire, c'est pas non plus une histoire de faute que de vivre ici en ce moment. Je veux dire, il faut se donner la place de relativiser. C'est peut-être plus ça mon point qui n'aboutit pas.
Oui, puis il y a des stratégies pour aider aussi. Il y en a en ligne. Il faut faire attention à choisir ce qui va vraiment aider sur le terrain, mais il y a des moyens. On peut agir même si on est dans le confort de notre salon, là, effectivement. Sans pour autant prendre toute la misère du monde sur nos épaules. Là. C'est pas, on va aider personne si on est là à culpabiliser. Là.
Non, c'est ça. Puis ces scénarios catastrophes-là, je pense qu'il faut se donner la place de... Un peu ce que tu disais tantôt, Solène, me dit « OK, j'ai cette inquiétude-là, mais je vais pas investir ou surinvestir ce scénario-là. » Parce que moi, je sais que mon imagination, elle aime bien m'emmener dans des scénarios apocalyptiques ou dystopiques. Là. Donc, des fois, il faut que je fasse comme « OK, c'est assez. »
Ouais. Ah, c'est juste accueillir, puis à un moment donné, de faire « Ben, OK, c'est beau, j'ai pensé ça, ça suffit, on passe à autre chose. »
Mélissa?
Ouais, puis je pense que quand tu parles de ça, ce qui me vient en tête, c'est de faire la différence peut-être entre l'empathie puis la sympathie.
Oui, tellement.
Ils sont parfois très mélangés. Fait que, tu sais, l'empathie, c'est de ressentir que l'autre personne vit une détresse. La sympathie, c'est quand tu prends cette détresse-là sur toi également, quand elle t'appartient pas. Fait que l'empathie, c'est très dans la bienveillance. Mais la sympathie peut être détrimentale parce que de toute façon, souvent, on ne peut rien y faire. Puis c'est là de déterminer où est-ce qu'on peut avoir un pouvoir d'action ou pas. Puis là, je ne sais pas si on commencerait à verser un peu plus dans des stratégies, un peu plus en lien avec...
Ouais, l'anxiété.
L'anxiété.
Ouais.
Mais, tu sais, quand on parle justement de est-ce que j'ai un pouvoir ou pas, je pense que c'est la base de pas mal... tout ce que les thérapeutes vont travailler. Puis, tu sais, chaque thérapeute va avoir leur façon de travailler. T'sais, Solène a mentionné ce qu'elle avait travaillé. Moi, j'en ai vu différentes façons. Celle que je pourrais apporter dans un premier temps, si vous êtes d'accord, mesdames.
Bien sûr!
Dans le fond, c'est comme une espèce de chemin pour filtrer ce qu'on vit. Fait que le premier passe par le filtre de comment je me sens. Puis comment je me sens va être influencé par 4 choses principalement, dont le sommeil, l'alimentation, la capacité à prendre soin de soi, fait que tout le self-care, puis l'exercice. Fait que dans le fond, tu sais, quand je ressens de l'anxiété, la première question qu'on devrait se poser, ça serait de dire, bon, mais est-ce que je suis fatiguée? Est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai pris soin de moi ou est-ce que je suis en train de travailler comme une torsionnaire, tu sais? Est-ce que j'ai bougé récemment? Fait que ça, c'est un premier filtre qu'on peut appliquer parce que c'est sûr que si t'es super fatiguée, tout est disproportionné. Si t'as faim, tu sais, tout le monde le connaît, le hangry, là, tu sais, quand... C'est le hungry, mais hungry.
T'es pas toi quand t'as faim.
C'est pas toi quand t'as faim, prends une barre.
Aucun placement de produit, merci.
Okay. Après ça, une fois qu'on a attesté de comment on sentait, puis voir si on peut essayer de réajuster en fonction de ça, de voir est-ce que c'est quelque chose qui est tangible, parce que l'anxiété, tu l'as mentionné, Fran, plus tôt, c'est souvent lié autour des situation hypothétique de ce qui peut se produire. Fait qu'est-ce que l'hypothèse de ce qui va se produire est probable ou imaginaire dans un certain sens? Puis je pense que c'est là que la différence vient quand on parle de neurodiversité puis qu'on parle de douance au niveau de l'hypersensibilité puis au niveau de la quantité d'informations qu'on peut stocker, c'est que... Puis je vais parler pour mon cas, moi, peut-être un peu plus particulièrement, puis vous me direz si vous, ça s'applique, mais... c'est facile d'aller chercher l'information qui va justifier une crainte.
Oui, mais de l'autoconfirmation, mais ça, c'est comme ça que fonctionnent les complotistes aussi, là, c'est très
oui, humain. Oui, c'est un biais très humain aussi que de se confirmer.
Ben, c'est ça.
Mais on est bon là-dedans,
mettons. C'est ça, mais tu sais, le biais de confirmation, puis le... De savoir, de parler les liens, puis de faire des liens entre les différentes choses.
Oui, puis l'attention sélective aussi, on sélectionne vraiment les informations qui nous sont pertinentes, puis on
construit des chambres d'écho, tu sais, on va être... Plus on est dans... On va aller chercher l'information qui ressemble à ce qu'on pense, plus on va en avoir de ces informations-là aussi.
C'est ça, exactement. En fait, tu sais, dans le fond, pour tout le monde, je pense que, en tout cas, mon humble opinion pour ce que ça vaut, c'est que quand t'es doué, il y a quand même ce niveau d'intelligence-là qui permet de se faire un peu plus confiance sur les sources d'informations qu'on va trouver, qui va peut-être faire que, quand on va essayer de se demander si une situation, elle est probable, a une réelle probabilité ou est plus hypothétique, imaginaire, c'est facile de justifier que c'est réel. Puis la prise en action va être différente. Puis t'as l'air pas sûre, Solène?
Je processe l'information
présentement. Ah, OK, c'est bon, j'achète ça. C'est, je... mais, non, mais c'est bon, parce que t'en as
pas. J'avais envie de réagir en disant, tu sais, il y a cet avantage que tu nommes, mais j'ai envie aussi de dire que la douance combinée à l'anxiété, donc cette capacité à faire des liens vraiment poussés, peut alimenter aussi les scénarios catastrophes et l'anxiété, parce que justement, on se met à avoir des probabilités que peut-être d'autres personnes ne considéreraient pas.
Exactement. Ouais, en fait, je suis pas sûre du fait que parce qu'on a une douance, on va aller chercher des. On va valider plus facilement les situations qui sont réelles ou whatever. Ça, je suis pas sûre que je suis d'accord. Mais bon.
Mais c'est sûr que, tu sais, les distorsions cognitives, puis là, on parle encore de nos expériences, puis de.
Mm-hmm. Oui.
Les distorsions cognitives sont pas exemptes du profit de la douance, loin de là, tu sais.
Oh non!
C'est juste que je pense que ce que j'essaie d'exprimer, c'est qu'en temps normal, on est capable de... Tu sais, quand c'est pas dans une situation anxiogène nécessairement, on est capable de voir les répercussions, puis d'avoir une intuition, mm-hmm. puis de prendre des décisions qui vont souvent peut-être ne pas être comprises par les autres de par notre cheminement de pensée, puis...
Ouais.
Tu comprends? Fait que tu sais, si tu l'appliques à un scénario anxiogène... puis que tu te bases sur ta capacité générale à gérer des situations, ça peut créer un biais, dans le fond, où tu dis, ben je sais tout ça. J'ai l'impression que j'exprime mal,
mais... c'est une réflexion qui est intéressante. Je pense qu'il n'y a juste peut-être pas de réponse simple à ce que tu évoques. J'ai l'impression qu'il y a plus de nuances. Puis comment je le perçois aussi, c'est que les distorsions cognitives, ben, entre autres, le tout ou rien, cerveau doué, cerveau neurotypique, cerveau TDAH, le tout ou rien, c'est une distorsion cognitive qui est ultra répandue et qui, là, si elle agit dans ce genre de scénario-là, on a beau avoir tout l'esprit critique qu'on veut, toute la capacité à faire des liens qu'on veut, c'est implicite. On ne se rend pas toujours compte de ce processus-là. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est vraiment une belle réflexion. J'aime ce que tu apportes comme questionnement, mais je crois pas qu'il y ait une réponse unique, en fait.
Non.
Je pense que ça va être très, très personnalisé.
Je sais que moi, par exemple, si je pars dans un trip d'anxiété, oublie ça, là, c'est pas rationnel pour toute mon affaire. Mais ça, c'est moi.
Non, mais c'est intéressant. J'aime ce que tu apportes, ces nuances-là, Mélissa. Je pense que je vois un peu où ça va, mais j'ai la difficulté à comme créer une généralisation, en fait, à partir de ça.
Oui. Non, ça serait pas une généralisation. Je pense que je fais juste le lien peut-être entre deux thérapeutes que j'avais consultés, okay. puis avec une où je me sentais vraiment comme... tout ce que j'apportais, c'était vraiment 100% hypothétique. Mm-hmm. Alors que quand j'avais consulté une personne qui était plus spécialisée en douance, elle me disait, mais tu sais, c'est que il y a de l'information que tu vas accéder avec ton cerveau que d'autres personnes n'accéderaient peut-être pas. Fait qu'à ce mm-hmm. moment-là, t'es moins dans l'hypothèse parce que t'as des faits derrière ce qui pourrait peut-être générer une situation anxiogène que mm-hmm. d'autres personnes peut-être n'auraient pas. Fait que je pense que la nuance,
c'est que t'as comme été appuyé tes hypothèses avec plus d'observations. T'as capté plus d'informations empiriques d'une certaine façon pour aller valider tes hypothèses, là où d'autres personnes seraient vraiment plus dans... juste la projection d'hypothèse, le ressenti, sans être capable de mettre des faits derrière.
Je pense que c'est ça qui exprime mieux. Puis là, ben, la raison pourquoi j'apporte la différence entre vraiment quelque chose qui est hypothétique puis quelque chose qui est réel, c'est après ça ce que tu fais pour le moment présent. Fait que mm-hmm. si c'est quelque chose de réel sur lequel tu peux avoir un impact, bon, ben, c'est de faire le plan d'action de « OK, qu'est-ce que je vais faire avec ça, mm-hmm. concrètement? » Puis si c'est hypothétique, ben c'est de faire d'autres choses.
Ouais.
C'est de passer à autre chose, de vivre le moment présent, puis d'aller faire quelque chose qui va stimuler ton cerveau autrement, d'aller jardiner, de faire du bricolage, n'importe quoi qui mm-hmm. change ton focus de ton cerveau pour te ramener dans le moment présent. Fait que ça, c'était un peu le chemin qui pour moi fonctionnait bien, que j'avais mm-hmm. Passé au travers.
Nice! Hey, c'est intéressant. Moi, je voulais vous parler de Christine Neff, qui a écrit un livre qui s'appelle « S'aimer, comment se réconcilier avec soi-même ». Donc, elle est une scientifique, elle a fait des recherches en psychologie, et bref, c'est quand même quelqu'un d'intéressant. Puis dans son livre, elle parle beaucoup d'autocompassion. En fait, c'est un livre sur mm-hmm. l'autocompassion. Plein de super belles stratégies, c'est intéressant. Il y en a que je trouve un peu tirées par les cheveux, mais il y en a quand
même... On prend ce qui nous va, tu sais.
Ben, c'est ça, il y en a quand même quelques-unes que mes psys m'ont recommandé au fil des ans. Donc, il y en a un, entre autres, qui reprend un peu ce que je vous mentionnais, d'accueillir l'idée, puis ensuite mm-hmm. la pensée, puis ensuite de le laisser partir. Il y en a un autre dont je voulais parler, c'est gérer corporellement les émotions pénibles. Donc, sa stratégie, c'est apaiser, consoler, accueillir. Donc, en fait, c'est de se poser et de se demander, OK, qu'est-ce que je ressens physiquement avec cette émotion-là? Parce qu'on l'a mentionné tantôt, l'anxiété, l'angoisse, etc., le stress, ça va avoir un impact physique. Donc là, est-ce que j'ai une sensation d'oppression dans la poitrine? Est-ce que mon cœur me fait mal? Est-ce que je sens que j'ai les mains froides? Parce que j'ai dit tantôt que le sang là, dans les extrémités, mm-hmm. c'est l'inverse, en fait. donc d'avoir les extrémités froides, ce genre de choses-là. Donc, vraiment, tu ressens, puis tu vas un peu prendre soin, tu sais, prendre dans tes bras. Ça peut être vrai, en fait. Tu peux réellement te prendre dans tes bras pour te réconforter. Mm-hmm. Mais ça peut être aussi juste de te centrer sur cette émotion, sur ce sentiment physique-là. Et puis te réconforter, donc te dire, OK, ben là, ça va, je vais respirer. T'sais, j'ai un sentiment d'oppression, mais je vais prendre des respirations, puis je vais prendre soin de moi. Puis un peu comme, tu sais, de rassurer ton petit moi intérieur. Mm-hmm. C'est ça. Puis ensuite, ben, c'est de passer à autre chose. Puis en fait, c'est un exercice de relaxation, finalement. Voilà. Donc, de prendre conscience qu'on a un impact physique, puis d'essayer de calmer un élément à la fois, chacun mm-hmm. de ces impacts physiques-là. Pour ensuite prendre soin de soi et s'apaiser, finalement.
Très belle stratégie, puis je me permets le spoiler, là, mais je trouve ça le fun parce que la semaine prochaine, tu sais, on va vous aborder beaucoup la psychologie positive, puis avec une invitée, puis l'autocompassion est un des sujets qu'on a exploré, donc je trouve ça génial, Solène, que tu l'amènes cette semaine, en sachant qu'on va l'explorer encore plus la semaine prochaine.
Oui, puis on a déjà reçu Manuel Constant en synergologie. Oui. Puis dans sa formation, il disait entre autres qu'une émotion va se ressentir physiquement. Donc, on peut la voir, en fait, l'émotion. Mm. Elle va avoir un impact physique d'abord. Mm-hmm. Puis c'est quand ça passe au rationnel que là, ça devient un sentiment et que ça devient un peu plus permanent. Bien, pas permanent, mais un peu plus...
moins éphémère, moins réactif.
Bien, c'est ça. C'est plus installé dans le temps. Donc, c'est aussi une façon de voir ça. Il y a d'abord une réaction physique et c'est normal. Mm.
Oui. Exact. Puis ça me ramène aussi à l'épisode qu'on avait sur la sensibilité au rejet. Il y avait certaines stratégies, peut-être ceux qui ont écouté l'épisode puis qui ont été voir les sources qu'on avait mis, mais la méthode RAIN ressemble beaucoup à ce que tu apportes, dans le fond, Solène, comme technique là, d'autocompassion, d'observer ce qu'on vit, de l'accueillir, d'être bienveillant avec, puis d'essayer de décortiquer, puis ensuite de le laisser passer pour rester dans le moment présent. Fait que les outils, en tout cas ceux qui ont peut-être déjà regardé puis commencé à les mettre en pratique, ces outils-là, je trouve que ça s'applique dans une certaine manière aussi, là, avec qu'est-ce qu'on est en train d'apporter.
Puis, moi, je vais amener mon petit grain de sel. Il y a deux, il y a deux stratégies que j'applique pour la personne ultra ancrée dans la rationalisation, l'intellectualisation que je suis. Ce qui est pas ce qu'il y a du bon et du moins bon. Je peux faire de la compartimentation très forte et me détacher hautement de mes émotions, mais c'est pas tout. En fait, c'est rarement ça. T'allais dire, Solène, dans votre
question? Oh non, vas-y, c'est une autre stratégie, mais je vais en parler après que tu parles.
OK. dans les deux que moi j'applique, la première, c'est de m'ancrer dans la théorie, fait que je me ramène beaucoup. J'en avais déjà parlé, et d'ailleurs, j'ai une auditrice à qui je dois cette information, je viens de m'en rappeler. Le modèle de Lazarus au niveau des émotions. Donc, tu sais, il y a comme deux stratégies. Il y a la stratégie tournée sur la résolution de la situation et la stratégie tournée sur la gestion de l'émotion. Personnellement, la personne que je suis, j'ai longtemps cru que c'était négatif que de devoir juste gérer l'émotion. On dirait que j'avais tendance à trouver ça péjoratif. J'étais comme, non, moi, j'intellectualise, là, j'ai pas le temps de pleurer.
mais donc,
de me ramener à... Il y a une théorie qui parle de stratégie tournée vers la résolution du problème et de stratégie de gestion de l'émotion. Moi, ça m'a vraiment beaucoup réconforté avec le fait que les émotions, c'est inhérent à l'humain, c'est sain, c'est une source d'information cruciale qui compense les angles morts de mon intellectualisation. J'apprends de plus en plus à juste les recevoir. Donc, premièrement, ma première stratégie, c'est ça, c'est de dire, OK, est-ce que j'ai besoin en ce moment de juste être en stratégie de gestion de mon émotion, ça peut prendre un temps de repli. Souvent, je vais juste m'isoler, je vais me changer les idées, je vais, un peu comme vous avez nommé, là, juste dire, OK, je vis cette émotion, je ne l'investis pas nécessairement, mais j'accepte, je la vis. Comme je disais, je vais une grande tristesse quand j'ai su les événements. Ça, c'est une première chose. Puis l'autre, c'est beaucoup sous la forme de la restructuration cognitive un peu. Là. Donc, cette idée de dire, OK, il se passe une situation, ma pensée automatique, c'est quoi? Et là, je vais vous vulgariser cet exercice-là, s'il vous plaît, ne le prenez pas si simplement, mais moi, il me fait vraiment beaucoup de bien. Donc, c'est, OK, il se passe un événement, qu'est-ce que je ressens physiquement, comme j'essaie de me re-grounder dans mon propre corps, parce que c'est souvent ce que j'ai tendance à faire, c'est de me détacher de mon corps qui est juste dans ma tête. Qu'est-ce que je ressens physiquement, ma pensée automatique, puis à partir de là, comment je peux restructurer, modifier ma pensée. Et donc, de m'amener à juste considérer d'autres options. Puis juste ça, même si je ne me convainc pas moi-même, juste de semer le doute un petit peu par rapport à ma pensée automatique, me permet de relativiser puis de gérer mon anxiété par rapport aux choses. Voilà.
Ouais, c'est bien. Merci, merci.
J'ajouterais juste un petit... Je pense que ce qui m'aide puis ce qui est important de savoir, c'est que c'est pas parce que notre cerveau nous dit que c'est vrai.
Oui, non, effectivement.
Fait qu'en semant le doute comme ça, c'est pas parce qu'une pensée intrusive arrive que la pensée, elle est valide et réelle non plus.
Exactement. Fait que je le mets en doute tout le temps, le petit maudit.
Puis on s'entend-tu que en tout cas, les personnes autistes, on a discuté avec la théorie de la pensée, donc de concevoir que quelqu'un d'autre peut penser différemment de nous, qu'il peut y avoir d'autres avenues que celles auxquelles on réfléchit, ça peut être difficile pour nous autres. Fait que c'est d'autant plus important de faire l'exercice et de se dire, OK, si c'était pas ça, qu'est-ce que ce serait?
Exactement.
C'est ça, avoir une flexibilité cognitive.
Ouais. J'allais faire une petite touche d'humour avant de te repasser le micro, Solène. J'allais dire, je vous ai partagé justement cette semaine quand je suis en chicane avec mon cerveau. Je me rappelle que, dans le fond, il est en prison dans une boîte crânienne.
Oui, c'est ça. Et c'est vrai.
C'est ma façon d'imager le tout.
Puis je voulais mentionner une avenue dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant, mais qui est quand même très valide, c'est que si c'est trop envahissant, cette anxiété-là, ça peut être la médication aussi. C'est valide de le faire. Moi, c'est comme ça que je me suis sortie des crises de panique. J'en faisais vraiment, mais vraiment beaucoup depuis toute petite. Et puis c'est d'avoir mes anxiolytiques. Au début, c'était juste des avoirs avec moi. Juste ça, ça me permettait de me dire, OK, j'ai la situation sous contrôle. Si jamais ça ne va pas, j'ai cette avenue-là qui me permet de revenir à la normale et ça me permettait d'affronter beaucoup plus facilement l'élément anxiogène que j'avais. Puis sinon, ben, si ça ne va vraiment pas, ben, j'en prends. Puis ça peut, ça permet de me calmer. Donc, c'est valide aussi d'aller vers ça. C'est pas la première stratégie que je prends, sincèrement. Généralement, moi, ça va être celle de dernier recours, mais c'est propre à chacun et c'est tout à fait possible comme possibilité. Donc, allez voir votre médecin si jamais.
C'est ça, c'est ancré dans une démarche médicale. On le fait pas à l'aveuglette, là, je veux dire.
Non, absolument pas. Il faut d'abord que notre médecin soit d'accord. Là. C'est super important.
Oui. Mais que ce soit accompagné par une aide d'un professionnel en psychologie, que ce soit un psychologue ou un psychothérapeute, pour développer les mécanismes autour pour justement se fier à ça. Fait que, tu dis que c'est ton dernier recours, mais c'est parce que tu as appris à faire d'autres techniques, d'autres méthodes avant d'arriver à ça. Mais ça, apprendre ces méthodes-là, ça vient pas avec notre encyclopédie de la vie humaine qu'ils nous ont donné quand on vient au monde comme manuel d'instruction, tu sais.
Ça vient pas avec l'épisode de Noah Dirt sort aussi, on vous en a parlé, mais c'est pas que ça. Mais c'est ça, oui, j'ai d'autres stratégies. Ça ne peut pas être la seule, mais ça peut être une possibilité.
C'est ça, ça peut être une possibilité. Puis c'est correct de se donner un break aussi, tu sais.
Oui, on a le droit.
On a le droit.
J'allais proposer aussi tout ce qui vous fait sensoriellement du bien. Oui. Un chat qui ronronne,
une grosse doudou contre lourde.
Son chien, une grosse doudou lourde, un chocolat chaud, un bain. Je veux dire, ça paraît tellement cliché, facile à dire, mais de se réconforter les sens, c'est vraiment, vraiment crucial dans ces moments-là, de se faire du bien. On l'a dit un petit peu, de passer par la corporalité aussi pour être capable d'aller soulager notre psychologique. Je pense que c'est essentiel. Puis moi, c'est ce que j'ai beaucoup appris avec mes démarches thérapeutiques, c'était que ma tendance à me dissocier de mon corps, finalement, faisait que je n'adressais pas l'anxiété dans une perspective globale et holistique, donc j'avais tendance à beaucoup agir sur tout ce que je vivais dans ma tête, mais en bout de ligne, ben, mon corps le ressentait puis prenait ce stress-là qui se cumulait avec le temps.
Donc, voilà. Ça revient avec les quatre filtres que je disais un peu, tu sais, au début de mon chemin, qui est le sommeil, l'alimentation, mais le self-care, le faire des choses qui nous font du bien, c'est super important, là. Puis on oublie souvent, en tout cas, tu sais, je pense que plus que t'en as dans la vie, plus que tu vas te mettre de côté, fait que de se prévoir des moments à son agenda pour prendre soin de soi. En tout cas, moi, si j'avais un devoir à laisser à l'auditoire, ça serait aller tout de suite vous prévoir un petit moment pour prendre soin de vous. Je pense que c'est pas trop vous demander, puis c'est pour vous, c'est, ça sera jamais de trop. C'est un conseil que je me permets de vous donner. Puis avant aussi, juste parce que j'avais lu un livre que je trouvais intéressant, bon, dans la limite où c'était pas nécessairement rédigé par des médecins. Le livre Burnout par Emily, en fait, c'est deux sœurs qui l'ont écrit, Emily Nagoski puis Amelia Nagoski, dont une des deux est sexologue, je crois. Puis il y a beaucoup de techniques comment gérer les émotions de façon physique. Fait que, par exemple, il parlait justement, tu parlais, Solène, de se faire un câlin. Tu parlais, Fran, de vivre ses émotions. Mais justement, le fait de se faire un câlin ou de faire un câlin avec quelqu'un d'au moins 20 secondes va avoir un impact direct sur comment les hormones à l'intérieur de son corps vont se rééquilibrer, la respiration consciente et active. J'amènerais aussi la cohérence cardiaque, qui est un super bon outil. Il y a plein de petits...
Il y a des applications en plus pour ça.
Oui, il y a des applications.
Il suffit d'aller sur YouTube, de chercher cohérence cardiaque, puis il y a plein d'exercices. Ça, c'est super facile, puis ça marche.
Oui, ça marche vraiment, vraiment bien. Fait que des fois, c'est difficile de méditer puis de respirer par soi-même, mais quand tu regardes une petite boule monter puis redescendre, on dirait que ton cerveau, il se met en mode chat et je suis la boule. Fait que la cohérence cardiaque reste un bon outil. Peut-être, je pense qu'on avait oublié de... Ben, pas oublié, mais il y en a tellement que c'est ça.
J'ai envie de dire des trucs si simples. Moi, je sais que ce qui me fait du bien, c'est je vais marcher puis je me mets à prendre conscience de plein de sensations que d'habitude sont comme... invisibilisés par le fait qu'ils sont habituels. Donc, ressentir le vent froid sur mes joues, par exemple, en hiver, j'aime vraiment ça. Me concentrer sur le scintillement de la neige, ça paraît ultra poétique, mon affaire, mais je le fais, tu sais, ça me recentre dans des perceptions tellement de base, puis ça relativise beaucoup de choses. Je me mets comme à diluer plein de mes émotions, de mes sentiments, de mes perceptions, puis à redonner de l'importance à des choses que normalement j'ignore. Puis tu sais, ça fait très pleine conscience, en fait. Puis je pense par exemple, c'est ça, tu sais, l'alimentation attentive, aussi le fait de savourer le... Tu sais, un biscuit me fait du bien, mais je vais l'investir, mon Christy de biscuit, là, je vais savourer son odeur, son goût, sa texture, tu sais. Mais avec la nourriture, je suis pas très bonne, mais pour ce qui est de l'extérieur, je le fais énormément, puis ça me fait le plus grand bien. C'est comme revigorant comme moment.
Oui, donc effectivement, la méditation pleine conscience, ça peut être, juste comme tu le mentionnes, Fran, mais c'est ça peut être une belle stratégie pour sortir de sa tête et puis se donner un break. Là.
Oui, puis j'allais dire, moi, la méditation, souvent, ça m'insultait quand on me proposait ça. Là. J'étais comme, oh, j'ai pas le temps, c'est que je suis pas capable. Mais depuis que j'ai compris qu'on peut faire de la méditation marcher, là.
Ouais, c'est magique.
Ma vie a changé.
Oui,
c'est magique. C'est ça. Fait que les hyperactifs et les hyperactifs de ce monde, je vous le dis, la méditation n'est pas nécessairement un truc statique. Un, c'est super demandant intellectuellement. Puis deux, ça peut être fait en mouvement. Moi, c'est vraiment ce qui a changé la donne pour que j'accepte de considérer cette stratégie.
Ouais, puis j'avais suivi aussi des cours, beaucoup de méditation, puis de Nicole Bordelot. En fait, elle avait son studio proche de chez nous. Il y a beaucoup de gens qui la connaissent, là. Je l'apprécie beaucoup. Puis la compassion envers les autres est un excellent moyen de développer sa propre compassion. Fait que si on n'a pas le temps de méditer, puis que c'est trop difficile de méditer, elle a dit, une fois, elle avait rencontré une personne qui était chauffeur d'autobus, puis elle a dit, maman, j'ai pas le temps de méditer, blablabla. Puis elle dit, ben, elle dit, tout ce que tu as à faire, c'est de souhaiter, dans le fond, dans ta tête, à chaque personne, qu'il soit un souhait bienveillant, tu sais. Je ne me rappelle plus exactement les mots, mais de souhaiter la bienveillance aux autres personnes va générer de l'auto-bienveillance par le biais. Fait que ça peut être une façon de méditer consciemment sans méditer, de s'apporter de l'autocompassion.
Sur ça, je vais nous amener à clore. Donc, cet épisode-là, il était... chargé est important. L'actualité mondiale, elle est difficile depuis 2 ans, mais là, il y a des événements drastiques qui se produisent. On avait besoin d'en parler. Prenez soin de vous, cher auditoire. Mm-hmm, on vous aime. Vous êtes important.
Oui, puis, il ne faut pas oublier, dans un avion, quand il y a des mesures d'urgence, quand il y a le masque qui tombe du ciel, il faut d'abord mettre le sien avant de s'occuper de son enfant ou de qui que ce soit d'autre, parce que c'est d'abord soi qui va, en étant bien, qui va nous rendre disponibles aux autres. Donc, pensez à vous un peu, ça fait du bien. Puis soyez gentils avec vous-même. Soyez bienveillants.
Donnez-vous le droit, parce que la culpabilité, on n'a comme pas besoin dans ces...
Non,
c'est ça.
Ouais. Hey, mon Dieu, mais thérapie faite, donc à la semaine prochaine!
À la semaine prochaine!
Bye!
Vous avez apprécié l'épisode? Vos animatrices ont eu du fun à vous le préparer et l'enregistrer. Pour les encourager, n'hésitez pas à parler du podcast à votre réseau, vos amis, vos collègues! Et si vous avez envie d'échanger, vous pouvez les trouver facilement sur la page Les Neurodivertissantes sur LinkedIn et sur Facebook.